Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? En direct sur Radio Saféréol 94.2, le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. L'émission qui compte, avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Pierre et moi sommes très heureux de vous retrouver en direct après notre escapade néo-zélandaise. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter des contes maoris, je ne me suis pas assez imprégnée de ces histoires, peut-être pour une émission postérieure. Mais aujourd'hui, vu les températures glaciales, eh bien nous allons partir au nord du nord et dans des histoires de peau et d'os. Et il y avait, dans un village du nord, un jeune homme qui s'appelait Natatok. C'était le meilleur chasseur de phoques du village. Son harpon, plus rapide que le vol de l'oie sauvage, atteignait toujours sa cible. Natatok était un beau gars, bien bâti, bon chasseur, et pourtant, aucune jeune fille n'avait envie de l'épouser. C'est qu'elles avaient toutes un peu peur de lui. On murmurait qu'il avait des incohérences avec les esprits et que s'il ne ratait jamais sa cible, eh bien, c'était à cause de ça. Puis Natatok était sauvage. Sa maison était un peu à l'écart du village et souvent on l'apercevait seul, perdu dans ses pensées, en train de contempler la mer ou qui se promenait loin à l'horizon. Et voilà qu'un jour, Natatok, le chasseur, a marché sur la banquise et il a marché loin, plus loin que d'habitude. Et soudain, son œil perçant de chasseur a repéré un mouvement dans l'eau. Alors il s'est immobilisé derrière un tas de neige et l'a regardé de tous ses yeux. Et il a vu 5 phoques qui sortaient de l'eau. Ils se sont hissés sur la glace, ils ont secoué leur fourrure mouillée, et puis de chaque fourrure est sortie une jeune fille. 5 jeunes filles aux longs cheveux brillants, au corps souple, qui se sont mises à danser sur la rive. Natatok les regardait et il était subjugué, surtout par une, la plus grande, qui avait des cheveux noirs, si noirs qu'ils avaient des reflets bleutés. Et elle dansait, elle était si légère qu'on aurait dit qu'elle ne touchait pas le sol. Alors, tout doucement, le chasseur s'est glissé jusqu'au pot abandonné. Et il avait vu la belle jeune fille jeter la sienne. Et il l'a vue, il l'a repérée facilement parce qu'elle avait des reflets bleutés, comme ses cheveux. C'est bien celle-là. Alors, tout doucement, il a pris la peau. Et puis, il l'a caché dans son parka, et vite, il est rentré chez lui. Et il a mis la peau dans un coffre fermé à clé, la clé dans un petit sac de peau parmi ses affaires de pêche. Puis, il a pris une couverture de peau d'ours, et vite, il est retourné vers l'océan. Les femmes phoques étaient toujours là, en train de danser. Le jeune homme a fait exprès, en arrivant, de faire du bruit. Alors, aussitôt, les jeunes filles affolées ont sauté dans leur peau, elles se sont glissées dedans, elles sont redevenues des phoques et elles ont disparu dans l'eau. Toutes, sauf une, la plus grande, la plus belle. Elle a cherché sa peau de partout, mais et bien sûr, elle ne la trouvait pas. Alors, elle restait là, elle a appelé ses compagnes, seulement le bruit des vagues dominait ses cris. Alors elle s'est mise à pleurer et ses larmes coulaient comme des diamants sur sa peau pâle. Natatok a fait semblant d'arriver là par hasard. Et timidement, il a tendu la peau d'ours, il a dit à la jeune fille « Mais qu'est-ce que tu fais là, toute nue ?» La jeune fille s'est enveloppée dans la fourrure et elle lui a raconté qu'elle était une femme phoque, mais qu'elle ne comprenait pas, sa peau avait disparu. « Ne t'inquiète pas, nous allons la retrouver. En attendant, viens donc te réchauffer chez moi. » Natatok, la jeune fille voulait chercher, ils ont cherché ensemble, mais sur la banquise, il n'y a pas grand-chose. La peau avait vraiment disparu et il faisait tellement froid. Alors, Natatok n'a pas eu trop de mal à convaincre la jeune fille de l'accompagner chez lui. Ah, il était beau garçon, il était gentil, rassurant et tendre. Et la jeune fille est restée dans sa maison, elle est devenue sa femme. Et l'année suivante, ils ont eu un beau petit garçon. Ils vivaient heureux, Natatok allait pêcher et chasser, sa femme restait à la maison. Elle s'occupait de leur petit garçon. Elle lui racontait comment ça se passait au fond de la mer. Elle lui racontait qu'il y avait des hommes et des femmes qui pouvaient vivre tantôt sur terre, tantôt dans la mer. Elle lui racontait les langoustes, les poissons et toutes les créatures de la mer, les sirènes. Parfois, elle s'approchait de l'eau et elle regardait vers le large et des larmes brillantes comme des diamants coulaient sur ses joues. Puis le petit garçon l'appelait « Maman, maman !» Alors elle essuyait ses larmes et elle courait vers lui. Voilà qu'un jour où il faisait très mauvais temps, mais Natatok était quand même parti à la pêche et le petit garçon, lui, est allé jouer dans la remise. Il a cherché partout, il a couru et là, il a trouvé un coffre. Il a voulu l'ouvrir, mais le coffre était fermé à clé. Dans la maison de Natatok et de sa femme, rien jamais n'était fermé à clé. Alors il a couru vers sa mère et il est allé lui demander ce qu'il y avait dans ce coffre. Une étincelle brillante est apparue dans les yeux de la mère. Elle a dit « Je crois que je sais ce qu'il y a dans ce coffre. » Elle s'est précipitée sur les tiroirs, elle a renversé tout leur contenu par terre, elle les a tous vidés, elle a cherché partout. Le petit garçon l'a aidé et c'est lui qui a trouvé la clé dans un petit sac de peau qui était caché dans les affaires de pêche de son père. La femme a pris la clé, elle a embrassé son petit garçon, elle l'a serré fort contre elle, puis est allée au coffre, elle l'a ouvert à l'intérieur et avait une peau de phoque aux reflets bleutés. Et elle a couru vers la mer. Le petit garçon l'a appelée « Maman, maman !» Mais elle, c'est comme si elle n'entendait plus rien. Elle s'était glissée dans la peau de phoque et elle est redevenue un phoque et elle a glissé dans l'eau en soupirant tristement. Natatok, dans son kayak, a vu un phoque qui nageait vers lui. Il allait lancer son harpon, mais c'est comme si quelque chose l'arrêtait. Ce phoque avait des reflets bleutés sur sa fourrure et des perles de diamants semblaient couler de ses yeux. Le phoque pleurait. Alors il a compris et est vite rentré chez lui. Là, il a trouvé son petit garçon qui l'attendait. Et à partir de ce jour, ils ont vécu tous les deux. Natatok, lorsqu'il allait à la pêche, voyait souvent un phoque à la fourrure aux reflets bleus qui nageait autour de lui. Et le petit garçon, lorsqu'il se promenait, lorsqu'il marchait le long de la mer, il voyait un phoque qui nageait à côté. Mais la femme phoque n'a jamais repris sa forme humaine. Pourtant, ce qu'on dit, c'est que c'est depuis ce temps-là que les phoques pleurent comme des humains.
Qu'est-ce que t'as franchi, Ginette ? C'est drôle, t'es plus la même. Celle qui tachait ma piole, des calaboussures de robe, qui se gavait de bitos et de choux à la carême, qui lisait les Claudines à cheval derrière ma mob, dans ton blouson de marlou, bilou, bilou. Pourquoi t'as maquillé tes lèvres à la crème blanche, ta bouche où fleurissait des musiques si rouges, des gros mots merveilleux, des rires en avalanche, des internationales pour emmerder les bourges, des baisers pour les loups, bilou, à ma jumelle, ça serait trop moche, dis. Si ça couvait aussi chez toi cette langueur, qu'est comme une maladie, qu'est pas une maladie, qu'on croit que ça vient du cœur et qu'on n'a rien au cœur. Un invisible clou, bilou, bilou. Qu'est-ce que t'as, mon idiote? C'est-y ça le mal du siècle? Se faire du mal à cause d'avoir du mal aux autres, s'arracher tant de larmes qu'on se retrouve à sec, voir un été pourri, se dire que c'est de sa faute, grécher dans un igloo, bilou, bilou. Bilou le feu follet, la plus courue de mes boums, le bonhomme sur ta peau a retourné sa veste, le bar du Saint-Amand, le café au loukoum, le temps se fait la peur en accrochant les restes sur le clocher de Saint-Maclou. Bilou, bilou, qu'est-ce que t'as, ma jumelle, qu'encore atteint guérissable, qui use les regards dans des boîtes de Kleenex, en lise chaque part sous des tonnes de sable, qui sert du bouillon fade dans des verres en pyrex, qui rend les photos floues, bilou, bilou. Bilou, bilou, fais un effort, je te jure que tu ris. Rire, c'est ça, tu te rappelles, tu vois, c'est pas si dur. On regarde la prise barrée au cul du car ferry, vent chez tes joues, pinte de confiture. Pour un peu, je serais jaloux, bilou, bilou, bilou. Look at me.
Bilou par Alain Leprest pour notre pause musicale. Et maintenant, l'histoire d'une femme mouette. Tout au nord, sur une terre lointaine, vivait une mouette avec ses deux oncles mouettes. Elle aimait survoler le village des hommes. Regarder, observer, qu'est-ce qu'ils faisaient. Un matin, elle a dit à ses oncles « Mes oncles, je voudrais me transformer en être humain. » « Mais pourquoi ?» a dit un des oncles. « Oh, parce que vous me volez ma nourriture, vous me donnez des coups de bec, mon plumage est tout abîmé, et puis vous sifflez par les narines, ça m'agace, et puis les humains m'attirent. »« Très bien, » a dit l'autre oncle, « eh bien, tu vas te transformer en femme, mais un jour nous viendrons te rechercher. » Ils ont volé tous les trois jusqu'à un iceberg qui était en pleine mer. Et là, les oncles, grâce à leur pouvoir magique, ont transformé leur nièce en une belle jeune fille. Puis ils l'ont laissée là et eux sont envolés dans le ciel. Et voilà qu'un jeune chasseur qui traquait le phoque dans son kayak a aperçu en haut de cet iceberg une mouette qui se comportait d'une façon étrange. Et en s'approchant, elle a vu que ce n'était pas une mouette, mais une belle jeune fille qui portait un manteau de plumes. Il a manœuvré son kayak avec habileté entre les glaces flottantes pour s'approcher et a demandé « Mais comment est-ce que tu es arrivé là et où est ton kayak ?»« Oh, au lieu de poser des questions, est-ce que tu ne veux pas me laisser monter dans le tien et partir avec toi jusqu'à ton village ?» a demandé la belle jeune fille. Le chasseur n'avait rien contre, alors il l'a aidé à monter et ils sont repartis tous les deux. Et une fois arrivés, la jeune femme a dit « S'il te plaît, va me chercher des vêtements, parce que je n'ai que ce vilain manteau de plumes. Je voudrais bien l'enlever. » Bon, d'accord, le jeune homme s'est dépêché, il est allé trouver sa cousine. Il lui a dit, écoute, j'ai trouvé une belle fiancée, mais alors, elle n'a pas de vêtements, elle a juste un vieux manteau râpé plein de puces. Est-ce que tu me donneras un manteau et des bottes pour elle ? Bon, la cousine lui a donné ce qu'il demandait. Et lui, vite, il a couru, il se demandait si la jeune femme serait toujours là ou s'il avait rêvé. Mais non, elle était toujours là, toujours aussi belle. Elle a enfilé les vêtements et puis elle a jeté son vieux manteau de plumes dans la mer. Et dès le lendemain, ils se sont mariés. Ils se sont installés dans une petite maison qui était au bord d'une rivière, un peu à l'intérieur des terres. L'homme était un excellent chasseur et ramenait toujours des phoques et du poisson en abondance. Et sa femme, elle tressait des fils de canne à pêche avec une grande habileté et elle allait pêcher dans la rivière, ce qui fait qu'il ne manquait vraiment pas de nourriture. Et ils vivaient heureux. Souvent, ils allaient rendre visite à la famille du mari, et puis ils recevaient nombre d'amis. La seule ombre à leur bonheur, ça a été la mort des oncles du jeune homme, qui ont été pris dans une tornade et qui se sont noyés. Ça lui a fait beaucoup de peine parce qu'il les aimait beaucoup. L'hiver s'est passé sans encombre et est arrivée l'époque du dégel. Un jour où le mari était parti chasser, la jeune femme, en sortant de sa maison, a vu deux mouettes qui planaient haut dans le ciel, au-dessus de la maison. Un peu effarouchée, elle s'est dépêchée d'entrer chez elle. Le mari est revenu avec 5 gros poissons. Et pendant que sa femme les préparait, lui, il s'est assis pour lui faire la conversation. Puis soudain, deux hommes sont rentrés dans la maison. Ils avaient des visages émaciés, des yeux perçants, profondément enfoncés dans leurs orbites. Le mari s'est jeté sur son harpon, prêt à défendre sa vie et celle de sa femme. « Et qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. »« Nous sommes les oncles de ta femme, » a dit un des hommes. Il a montré le manteau en plumes râpé. Nous avons trouvé son manteau de plumes et alors nous nous sommes demandé ce qui lui était arrivé. Nous l'avons cherché partout et maintenant nous voilà. Le mari a reconnu le manteau, c'était bien le vieux manteau en plumes râpé que sa femme portait lorsqu'il l'avait rencontré. « Est-ce que ce sont tes oncles ?» lui a-t-il demandé. « Oui, » m'a-t-elle répondu. Elle qui avait été si heureuse, elle ne pouvait pas se résoudre à avouer à son mari qu'elle était une mouette et que ses oncles aussi étaient des mouettes. « Bon, très bien, » dit le mari qui, lui, était tout joyeux. « Eh bien, justement, on a besoin d'oncles dans cette maison. Moi, les miens sont morts dans une tornade. Alors, installez-vous et nous allons partager le repas. » Les oncles se sont assis, chacun d'à côté de la pièce. La femme a posé au centre le plat de poisson. « Servez-vous, » a dit le mari. Alors, un des oncles s'est approché et il a tourné autour du plat. Et puis, soudain, d'un coup de dent, il a arraché un morceau de poisson et il est retourné dans son coin. Alors l'autre oncle a bondi, il s'est précipité sur le premier et lui a arraché le morceau de poisson de la bouche. Et comme ça, ils se sont battus. Et le mari, consterné, a dit « Mais il y a de la nourriture pour tout le monde, c'est pas la peine de vous battre. » Et pendant tout le repas, ça s'est passé comme ça. Les oncles se tournaient autour, ils se prenaient la nourriture dans la bouche et ils mangeaient avec leurs dents, sans se servir de leurs mains. La femme, le mari et les oncles ont mangé tout ce qu'il y avait. Et puis, un des oncles a dit à sa nièce « Et où sont les boyaux ?»« Bah, je les ai donnés aux chiens, » elle a dit. « Et les yeux ? Et les queues ?» Et a demandé l'autre oncle. Bah, ce sont les chiens qui les ont. Ah, tu sais plus préparer le poisson, tu ferais mieux de retourner avec nous immédiatement. Jamais je ne laisserai ma femme aller, ne serait-ce qu'en visite, dans un endroit où on mange les boyaux des poissons, a protesté le mari furieux. La femme a dit, mais mes oncles, faudrait mieux que vous partiez, parce que vous voyez, je prépare pas le poisson comme vous aimez, vous n'êtes pas heureux ici. « Et combien de temps pensiez-vous rester ?» a demandé le mari. « Oh, quelques jours. »« Bon, bah écoutez, les oncles sont des oncles, » a dit le mari. « Et nous nous sommes contents quand même que vous soyez là, mais la prochaine fois, eh bien, nous garderons pour vous les boyaux et les queues de poisson et les yeux, mais seulement vous les mangerez à l'extérieur parce que nous ne voulons pas vous voir en train de manger ça. Puis bon, tout le monde est allé se coucher, la femme et le mari là où ils dormaient d'habitude, et les oncles de chaque côté de la pièce. Le mari avait du mal à dormir, puis au milieu de la nuit, elle a entendu que ça grattait sur le toit. Alors il s'est levé tout doucement, il est sorti. Et là, il a vu les deux oncles qui étaient assis sur le toit, tout raides. Alors ils avaient enfilé des moufles couvertes de plumes. Et avec les moufles, ils grattaient le toit. Et c'est ce qui avait fait le bruit qui l'avait réveillé. Le mari trouvait tout ça de plus en plus bizarre. Mais il n'a rien dit. Le lendemain, il est parti à la chasse. Et les oncles étaient dans la maison et ils ont passé toute la journée à jacasser, à se disputer, à râler, à jaser. Et leur nièce, quand elle est revenue de la pêche avec 10 poissons, ils se sont jetés dessus. Ils les ont déchiquetés et il y avait des morceaux de poissons de partout. Ah, ils ont mangé avec voracité les entrailles, les yeux, les queues. La nièce a dû tout nettoyer, mais le pire, c'était pas ça. Le pire, c'était qu'il ne se taisait jamais. Et ce bruit perpétuel lui cassait les oreilles. Elle a fini par aller se coucher, épuisée, mais eux ont continué de siffler et de jacasser. Le mari, lui, pendant ce temps, il traquait le phoque. Et il faisait beaucoup plus froid que la veille. C'est comme si, après le dégel, il y avait eu de nouveau une offensive du froid et ça arrivait parfois qu'il faille attendre le second dégel pour que le printemps s'installe. Et il était très loin de chez lui quand il a aperçu un kayak qui était coincé dans les glaces. À l'intérieur de ce kayak, il y avait ses défunts oncles puis d'autres fantômes. C'était le kayak des fantômes. Sa mère lui en avait parlé, il avait entendu des chasseurs qui disaient qu'il l'avait déjà vu, mais personne ne s'en était vraiment approché. Le chasseur était curieux, en même temps, il avait un peu peur. Finalement, la curiosité l'a emporté. Et il a guidé son traîneau sur une bande de glace qui s'avançait dans la mer. Il s'est approché du kayak. Et quand il a été assez près, un des fantômes d'un de ses oncles a dit « Ta femme est une mouette, et ses oncles aussi sont des mouettes, et ils sont venus pour la reprendre. » Bon, dit le mari, ouais, mais si tu nous dégages de la glace, nous allons te dire comment faire pour t'en débarrasser. » Alors le chasseur a pris son harpon, et il a tapé la glace, il l'a cassé, il a réussi à libérer le kayak. Il ne faut plus que tu nourrisses les oncles dans la maison. Jette-leur des biscuits et des queues de poisson sur la rive et ensuite tu verras. Je pense que tu seras content de ce qui va se passer. Il fera très froid. Et tu verras. Maintenant, tu dois rentrer chez toi. Eh bien, au revoir les fantômes, a dit le chasseur. Au revoir, chasseur. L'homme est rentré en chantonnant. Ne nourris pas les oncles dans la maison. Ne nourris pas les oncles dans la maison. Quand il est arrivé chez lui, il a trouvé sa femme profondément endormie et les oncles avaient jeté sur elle un manteau de plumes. Furieux, le chasseur a attrapé le manteau de plumes et l'a jeté aux chiens qui l'ont déchiqueté. Et malgré le bruit, sa femme continuait à dormir, épuisée. Alors le chasseur a pris des biscuits, des queues de poisson et est allé les jeter loin sur la rive. Puis il est revenu et il a dit aux oncles « Ah, mes oncles, ici, nous n'avons plus rien à manger, mais si vous voulez, il y a des biscuits et des queues de poisson sur la rive. » Alors, tout excité, les oncles mouettes se sont précipités dehors. Le mari s'est enveloppé dans des fourrures et puis il les a suivis discrètement. Et il les a vus qui se disputaient la moindre queue de poisson, le moindre biscuit qui se retirait la nourriture dans la bouche et qui était tellement occupé à se battre qu'ils ne sentaient même pas le froid qui les enveloppait. Et à chaque expiration, leur respiration les enveloppait d'un manteau de glace, ça gelait autour d'eux, et peu à peu les oncles se sont transformés en blocs de glace. Et quand ils sont devenus des blocs de glace, les fantômes les ont entourés et les ont changés en rochers. Il faisait si froid que le mari a failli geler sur place, mais il a réussi à se bouger et à retourner dans sa maison. Sa femme était en train de s'étouffer. Alors vite, il lui a mis la main dans la gorge et en a retiré un squelette de poisson. « Merci mon mari », a-t-elle murmuré. « Est-ce que tu souhaites redevenir une mouette ?» a-t-il demandé. « J'ai honte de t'avoir caché ce que j'étais, mais j'étais si heureuse avec toi. Non, moi ce que je voudrais, c'est rester un être humain et vivre avec toi pour toujours. »« Très bien. »« Tu as l'air gelée, et où sont les oncles ?»« Ils viendront plus nous tourmenter, ils ont été changés en rochers. » Le mari a serré tendrement sa femme dans ses bras. Le lendemain matin, ils sont sortis tous les deux. Ils sont allés regarder le dégel près des rochers, près des oncles rochers. Ils ont aperçu dans le lointain le kayak des fantômes qui gagnait le large. Alors ils sont rentrés chez eux. La femme n'est jamais redevenue une mouette. Le temps a passé, le couple a eu une fille, et puis un garçon, et puis une autre fille. Leurs enfants ne sont jamais devenus des mouettes, non plus. Et enfin, une dernière histoire. L'histoire de la fille qui ne voulait pas se marier. Certains soirs d'hiver, le vent souffle une histoire. Une histoire qui vient d'un pays des glaces. Un pays où les mots gèlent sitôt sortis de la bouche. Et c'est pour ça que les mots les plus précieux dans ce pays-là, on les garde. On les garde au chaud à l'intérieur de soi. Et parfois, on oublie les mots qu'on ne dit jamais. Dans ce pays, un peu à l'écart des autres, vivaient un vieux pêcheur et sa fille qui s'appelait Sedna. Sedna est précieuse au cœur de son père, mais il ne lui dit pas. Il n'a jamais trouvé les mots pour le lui dire. Mais il lui enseignait tout ce que d'ordinaire on n'enseigne qu'aux garçons. Il lui enseignait les secrets de la chasse et de la pêche. La patience, l'immobilité, et puis la vivacité et la précision. Sedna a écouté, elle a appris. Et quand son père est devenu vieux, c'est elle qui a subvenu à leurs besoins, qui a chassé et pêché pour eux deux. Elle a grandi. Dans son lourd parka, son corps maintenant est celui d'une femme. Elle passe de plus en plus de temps à peigner sa longue chevelure. Au village, on murmure, la fille du vieux pêcheur est bien belle. La rumeur s'étend aux autres villages, plus loin, et les prétendants arrivent dans leur kayak. Ils viennent avec des cadeaux, mais Sedna refuse de les voir. Elle ne sort même pas de chez elle, elle ne leur accorde même pas un regard. Le vieux père est désespéré. Ce serait déshonorant pour lui de mourir sans avoir marié sa fille. Et voilà un matin, un étranger qui arrive dans son kayak. Il porte un manteau en peau de phoque et des lunettes de soleil, qui ne sont pas comme les lunettes des chasseurs, les lunettes en os. Il paraît de grande taille et depuis son kayak, il appelle « Que celle qui ne veut pas se marier descende sur le rivage !» Sedna, ça la fait rire. Cet homme est différent des autres, il vient pas avec des paroles mielleuses et des cadeaux. Alors elle risque un regard par l'ouverture de la tente. L'étranger lui sourit et elle voit son reflet à elle dans ses lunettes de soleil. Il a l'air différent. Sedna attrape son matériel de couture, son peigne en os, et elle court jusqu'au kayak et puis elle s'installe, elle s'accroupit à l'arrière et l'homme pagaille vers le large, en direction des falaises. Le père voit partir sa fille, il devrait être heureux, Sedna a enfin trouvé un époux, mais son cœur de père est inquiet. Pourquoi cet homme ne lui a-t-il rien dit? Pourquoi a-t-il gardé ses lunettes de soleil ? Tout ça ne lui dit rien qui vaille. Sa fille est partie. Quant à Senna, avec son nouvel époux, bien, et voilà qui accoste au pied des grandes falaises. Et la fille qui ne voulait pas se marier voit que son nouvel époux a de toutes petites jambes. Quand il enlève ses lunettes, elle voit ses yeux tout rouges. C'est un homme oiseau, un affreux fulmar, un grand pétrel. Il la regarde pleurer en ricanant. S'il paraissait grand, c'est qu'il était assis sur sa queue. Et il l'emmène jusqu'à son campement, haut de la falaise. C'est des tentes de peau, tout est dans des odeurs de poissons épouvantables. Il y a des pots de poissons et des arêtes, et puis des oiseaux qui crient de partout. Tout est gris. Jamais de silence au village des oiseaux. Loin du blanc silence de ses glaces natales, Sedna s'éteint lentement. Son mari part chasser presque toute la journée et elle se retrouve seule dans les cris d'oiseaux, dans la puanteur des poissons pourris. Quant au père, un an après le départ de sa fille, il attend la visite des jeunes époux, c'est la tradition. Mais personne ne vient. Le père est inquiet, il attend encore. Puis une nuit, il entend sa fille qui l'appelle. Elle attend. La nuit suivante, de nouveau, il l'entend sangloter. Et la troisième nuit, quand il entend ses sanglots désespérés, alors il n'y tient plus. Il saute dans son kayak et il part dans la direction où il a vu le kayak de l'homme avec sa fille disparaître. Au petit jour, il est au pied des falaises. Et là, malgré les hurlements du vent, il croit entendre sa fille, il lève les yeux, il voit une petite silhouette là, tout en haut de la falaise. C'est bien sa fille, il monte la rejoindre. Elle est maigre et pâle. Elle voit autour d'elle toutes ces peaux de poisson, la saleté. Alors elle se jette dans ses bras et elle le supplie de l'emmener avec lui. Le père n'a pas le droit. Une femme doit rester avec son mari, c'est la loi. Mais Senna est si malheureuse, si désespérée qu'il cède. Et ils descendent tous les deux la falaise et ils montent dans le kayak. Sedna s'accroupit au fond et le père rame de toutes ses forces. Et autour, il y a des fulmars qui volent en criant. Puis soudain, du haut du ciel, un oiseau pique droit vers le kayak. C'est le mari de Sedna. Et il bat la surface de la mer avec ses grandes ailes et il fait tanguer l'embarcation. Il réclame sa femme. Le père, terrorisé, jette derrière le kayak les bottes et les gants de sa fille. Et il rame de toutes ses forces. Et le fulmard, un instant distrait dans sa poursuite par ce leurre, revient à la charge. Et il appelle les autres fulmards en criant. Et voilà tous les oiseaux qui battent la mer avec leurs ailes. Ils font monter le vent, ils font monter les vagues et la tempête. Laisse-moi voir ces chères petites mains, elles sont à moi, elles sont à moi. Les oiseaux redoublent d'efforts, les vagues montent, le kayak tangue. Le père est affolé, maintenant les vagues sont hautes comme des montagnes. Il a offensé les dieux, c'est sûr, en reprenant sa fille, c'est un sacrilège. La mer gronde, le vent hurle et les oiseaux crient. Le père supplie sa fille, descend, va rejoindre ton mari. Mais Senna est recroquevillée au fond du kayak, elle disparaît dans sa longue chevelure. Alors le père perd la tête, il attrape sa fille et il la jette par-dessus bord. Elle s'accroche de toutes ses forces au bord du kayak. Il frappe avec sa pagaie sur les doigts gelés de sa fille. Les doigts se brisent et il tombe dans la mer. Il se transforme. Il se transforme en phoque, en morse, en narval, les premiers mammifères marins du monde. Et les pousses deviennent des belugas et des rorquals. Et tout doucement, Sedna glisse dans les profondeurs de la mer. Ses longs cheveux volent autour d'elle comme des algues. Enfin, le silence. La tempête se calme dans les profondeurs. On n'entend rien. Sedna vit depuis au fond de la mer. C'est la déesse de la mer. C'est de l'humeur de Sedna que dépendent la chasse et la pêche des mammifères marins. Elle n'a plus de doigts maintenant pour peigner et tresser ses longs cheveux. Alors quand il s'en mêle, la rage la saisit, la rage de ne pas pouvoir se coiffer. Alors elle emprisonne les poissons, les mammifères marins dans ses cheveux pour affamer les humains. Ou alors elle soulève une tempête pour les noyer. Ce sont les chamans qui doivent descendre au fond de la mer. Elle lui murmure de douces paroles à l'oreille. Il coiffe ses longs cheveux et ils apaisent sa colère. Mais qu'est-ce qu'elle raconte en direct sur Radio Saféréol 94.2? Alors, les références de nos contes d'aujourd'hui. La première histoire, c'est l'histoire de la femme phoque. Il y a La peau de la phoque dans Des belles et des bêtes aux éditions Corti. Un album de Catherine Gendrin, La femme phoque aux éditions Didier Jeunesse. Et L'enfant phoque aux éditions Les Grandes Personnes. Mais il y a bien d'autres versions de ce conte. La deuxième histoire, L'homme qui avait épousé une mouette dans Les Contes du Grand Nord, édition Castor Poche. Et enfin, Sedna, celle qui ne voulait pas se marier, dans Être et renaître inuit de Bernard Saladin d'Anglure, ou aussi aux albums du Crépuscule en édition bilingue, à Soleil de minuit, bilingue inunitut français. Cette émission est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et nous nous retrouvons le mois prochain pour Mais qu'est-ce qu'elle raconte?